Claire Tiercelin au micro pour cette rubrique mensuelle « Le bâton du pèlerin ». Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans la deuxième plus importante ville de pèlerinage de France après Lourdes, c'est Lisieux. Et c'est à Thérèse Martin, en religion Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, que nous devons, si l'on peut dire, la renommée de cette petite ville du Calvados. Quelques points importants de sa courte vie. Thérèse est née à Alençon dans l'Orne le 2 janvier 1873. Elle vit alors dans une famille de fervents catholiques. Les Martin ont eu 9 enfants, dont 5 meurent en bas âge, tandis que les autres, toutes des filles, deviennent religieuses. 4 filles au Carmel et une Léonie à la Visitation de Caen, dont la béatification a été déposée à Rome en mars 2020. En novembre 1877, après le décès de Zélie, la maman, Louis Martin et ses 5 filles s'installent à Lisieux, au Buissonnet. Un dimanche, à l'occasion d'une visite à ses grandes sœurs au Carmel, elle parvient à parler seule à la supérieure, Mère Marie de Gonzague. Celle-ci croit à sa vocation, mais n'accepte pas de postulante âgée de moins de 16 ans. Thérèse accepte de patienter. Elle sait désormais qu'elle a trouvé sa voie. À plusieurs reprises, Thérèse tombe malade. Elle ressent à cette époque le besoin de prier pour la conversion des pécheurs. Les journaux parlent alors d'un condamné à mort, Henri Pranzini, qui n'a jamais exprimé le moindre regret de ses meurtres. Thérèse décide d'obtenir sa conversion. Elle fait des sacrifices et prie plus intensément encore, confiante dans la miséricorde de Dieu. Lors de son exécution, Pranzini refuse de voir le prêtre, mais au dernier moment, il se retourne et embrasse la croix avant de mourir. Le récit de la mort de Pranzini qu'elle lit dans le journal de son père marque Thérèse et conforte sa vocation. Elle doit consacrer sa vie au Carmel et devenir religieuse afin de prier pour tous les pécheurs. Thérèse se sent désormais prête à entrer au Carmel de Lisieux. Elle en a même fixé la date au 25 décembre 1887. Mais elle n'a même pas 15 ans. Son père et son oncle acceptent, mais Thérèse se heurte maintenant au refus catégorique du chanoine de la Troète, aumônier du Carmel. Seul l'évêque pourrait le faire fléchir. Il reçoit Thérèse à Bayeux le 31 octobre et l'écoute exprimer le vœu de se consacrer à Dieu, qu'elle éprouve depuis qu'elle est enfant. Mais il remet sa décision à plus tard, quand il aura l'avis du chanoine de la Troète. Il ne reste plus qu'un espoir, le pape Léon XIII que Louis Martin doit rencontrer prochainement au cours d'un pèlerinage à Rome avec sa fille Thérèse. Lors de l'audience, Thérèse s'agenouille et dit en pleurant « Très saint père, j'ai une grande grâce à vous demander ». Le vicaire explique alors qu'il s'agit d'une jeune fille qui veut entrer au Carmel. « Mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront », répond le pape. La jeune fille insiste. « Oh, très saint père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien ?» Louis XIII lui rétorque. « Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Mais Thérèse souhaite une parole décisive et attend les mains jointes sur les genoux du pape. Deux gardes doivent alors la porter jusqu'à la sortie. Enfin, le 1er janvier 1888, veille de ses 15 ans, elle reçoit une lettre de Mère Marie de Gonzague. L'évêque s'en remet à sa décision. Thérèse est donc attendue au Carmel. Elle y entrera le 9 avril 1888. Elle avait 15 ans et 3 mois. La vie au Carmel est essentiellement consacrée à la prière personnelle et collective, au temps de silence et de travail. Un jour, un jeune séminariste demande au Carmel qu'une religieuse soutienne, par la prière et les sacrifices, sa vocation missionnaire. Mère Agnès désigne Thérèse, qui, ayant toujours rêvé d'avoir un frère prêtre, en est ravie. Elle multiplie les petits sacrifices qu'elle offre pour la mission du futur prêtre et l'encourage par ses lettres. Mais Thérèse est malade, gravement. En janvier 1897, Thérèse vient d'avoir 24 ans et écrit « Je crois que ma course ne sera pas longue ». Pourtant, malgré l'aggravation de la maladie pendant l'hiver, Thérèse parvient encore à tenir sa place dans la communauté. Mais au printemps, les vomissements, les fortes douleurs à la poitrine, les crachements de sang deviennent quotidiens et Thérèse s'affaiblit. Le 17 août, le docteur examine Thérèse. Son diagnostic est sans appel. C'est une tuberculose au stade le plus avancé. Ses souffrances sont alors extrêmes. C'est à en perdre la raison, dit-elle. Ses sœurs lui demandent comment l'invoquer quand elles prieront plus tard. Elle répond qu'il faudra l'appeler Petite Thérèse. Malgré la gravité de son état, elle n'est pas transportée à l'hôpital. La prieure refuse les piqûres de morphine que le médecin propose à Thérèse, estimant que ce traitement, assez nouveau à l'époque, ne convient pas à une carmélite qui doit accepter la souffrance héroïquement subie. Elle meurt le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. À la demande de sa sœur, elle avait écrit pendant plusieurs années l'histoire d'une âme qui rencontrera un succès incroyable. 500 millions d'exemplaires seront vendus à travers le monde. Parallèlement au succès du livre, une dévotion populaire à Thérèse de Lisieux se développe rapidement en France et dans le monde. Elle s'accompagne de témoignages de conversion et de guérison physique. Dès la fin du XIXe siècle, on prie la petite sainte bien avant que l'Église ne la canonise. Pendant la Première Guerre mondiale, les demandes d'intercession à Thérèse se multiplient et sa renommée grandit, même du côté allemand. Thérèse est béatifiée le 29 avril 1923 et canonisée en 1925. Le 19 octobre 1997, année du centenaire de sa mort, Sainte Thérèse est proclamée docteur de l'Église par Jean-Paul II. Après la pause, nous verrons tout ce qui s'est passé à Lisieux après la mort de Thérèse.
L'harpe et la cithare, le saxophone et la guitare, avec le cor et la trompette, le tambourin, la clarinette.
Chantez la louange du Seigneur, alléluia, alléluia. Chantez la louange du Seigneur, alléluia.
Claire Tiercelin au micro, qui vous parle aujourd'hui des pèlerinages à Lisieux. Dans le monde, plus de 1700 églises sont dédiées à Thérèse de Lisieux. De nombreuses écoles catholiques et chapelles portent également son nom. Après la Seconde Guerre mondiale, ses reliques font le tour des grandes villes de France. Aujourd'hui encore, en France et à l'étranger, des foules se déplacent pour vénérer la petite Thérèse. Quand on vient en pèlerinage à Lisieux, on peut commencer par la basilique, imposant édifice d'une superficie totale de 4500 m². L'idée d'ériger une basilique à Lisieux en l'honneur de celle qui venait d'être canonisée en 1925 rencontra bien des oppositions dans le clergé local. La ville possédait déjà de nombreux édifices religieux. On estimait d'autre part que le culte de Thérèse, favorisé par la piété des poilus pendant la guerre de 14-18, n'aurait qu'un temps. Ces objections n'ont pas arrêté l'évêque d'alors, Mgr L'Aumônier. Dès 1925, il entreprit toutes les démarches et il avait l'approbation du pape Pie XI qui avait canonisé Thérèse le 17 mai 1925 et qui la considérait comme l'étoile de son pontificat. Le 30 septembre 1929, les travaux commencent. Dès lors, la basilique se construit à un rythme accéléré. En novembre 1929, Pie XI fait savoir à Mgr Suard qu'il faut faire très grand, très beau et le plus vite possible. Le 11 juillet 1937, le cardinal Pacelli, futur pape Pie XII, procède à la bénédiction solennelle de la basilique. La basilique a peu souffert des bombardements de juin 1944 et les travaux d'achèvement, vitraux et mosaïques, ont continué jusqu'au 11 juillet 1954, date à laquelle eut lieu la consécration du sanctuaire par Mgr Martin, archevêque de Rouen, sous la présidence du cardinal Feltin, légat du pape. En cette basilique, on ne peut qu'être émerveillé par les mosaïques et les vitraux. Les pèlerins se rendent également dans la crypte, entièrement recouverte de marbre et de mosaïques. Elle abrite maintenant le reliquaire des saints Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse, canonisée en 2015. Et la chapelle d'adoration permet de prier dans le silence et la paix. On ne repart pas de Lisieux sans se rendre au Carmel pour prier devant les reliques de la petite Thérèse et sans aller au Buissonnet, jolie petite maison où résidaient les Martins. Un pape à Lisieux, ça vaut la peine de l'évoquer. 2 juin 1980, Lisieux accueille le pape Jean-Paul II. 150 000 personnes ont fait le déplacement pour accueillir le souverain pontife et voici des phrases relevées dans l'homélie de Jean-Paul II. Je suis ici en pèlerinage auprès de celle que nous aimons tant, la petite Thérèse, dont la voie vers la sainteté est étroitement liée au Carmel de Lisieux. Si les personnes versées dans l'ascèse et la mystique et ceux qui aiment les saints ont pris l'habitude d'appeler cette voie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus la petite voie, il est tout à fait hors de doute que l'Esprit de Dieu qui l'a guidée sur cette voie l'a fait avec la même générosité que celle par laquelle il a guidé autrefois sa patronne, la grande Thérèse d'Avila, et par laquelle il a guidé et continue de guider tant d'autres saints dans son Église. Et poursuit le pape Jean-Paul II, « Et quand je vois devant moi tous ces malades et infirmes, je pense qu'ils sont associés eux aussi, comme Thérèse de Lisieux, à la passion du Christ, et que grâce à leur foi en l'amour de Dieu, grâce à leur propre amour, leur offrande spirituelle obtient mystérieusement pour l'Église, pour tous les autres membres du corps mystique du Christ, un surcroît de vigueur. » Fin de citation de l'homélie de Jean-Paul II. Je souhaite à ceux qui ne connaissent pas Lisieux de s'y rendre un dimanche ou en semaine. Il y a des messes tous les jours à la basilique ou au Carmel et ce n'est pas très loin de chez nous. Au revoir, chers auditeurs, et je reviens le mois prochain.
Alléluia, louez Dieu, de la terre jusqu'aux cieux. Alléluia, louez Dieu, bénissez-le, acclamez-le. Alléluia, louez Dieu, de la terre jusqu'aux cieux. Alléluia, louez Dieu, bénissez-le, acclamez-le. Pour les montagnes et l'océan, bénissez-le.